Tout d'abord, bonsoir. Effectivement, on a déjà parlé assez des malheurs, enfin personnellement. Il est vrai que le sujet pourrait être traité de la façon dont Benny Cohen l'a décrit, c'est-à-dire, puisqu'il faut être joyeux, ou puisqu'on est joyeux, alors pourquoi, quelquefois, cette joie va être interrompue par des problèmes, j'appelle ça des malheurs. Je voudrais essayer de traiter le problème autrement. D'abord essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la joie. Qu'est-ce que la Torah appelle la joie? On va utiliser le mot qui est le plus employé, c'est le mot simcha. Bien que vous savez qu'il y ait 10 lechonot, il y a 10 façons dans la Torah d'appeler la simcha. Asara le shonot, c'est le simcha. Mais on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Et dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à cette simcha. Qu'est-ce qui fait que quelquefois elle est interrompue? Et est-ce qu'il existe des gens qui, eux, sont toujours dans la simcha ou non? Alors pour essayer de savoir ce que c'est que la simcha, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par quelque chose qu'il est très difficile à comprendre. Il est marqué dans le traité de Ta'anid, dans la Gemara, « Hasameach beisurim, celui qui est sameach, on verra en fin de compte comment on va traduire « sameach », c'est-à-dire celui qui a la simcha, on pourrait dire qui est joyeux, « beisurim, même lorsqu'il a des malheurs, mais vi Yeshua la'olam, celui-ci amène la délivrance au monde. Il serait possible, avec un point d'interrogation, de pouvoir avoir de la simcha, même beissourim dans le malheur. Et de même dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Yitro, là-bas le Midrash dit, il faut avoir de la simcha au moment où on est dans le malheur, plus que batova, plus que lorsqu'on est dans le bonheur. Puisque ceux qui sont sameach, ceux qui éprouvent de la joie, même dans le malheur, amènent la Yeshua, amènent la délivrance. Et puisque vous savez que cela fait des milliers d'années que nous l'attendons, il faut croire que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Mais il faut quand même essayer de comprendre ce texte. Pour cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah appelle la simcha. D'abord, on va faire une première distinction. Vous savez qu'il y a deux types de jours fériés dans le judaïsme. Il y a le Shabbat et il y a le Yom Tov, Moed. Shabbat, le septième jour de la création, où HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, au moment où il a créé le ciel et la terre, s'est arrêté de créer. Pour nous, c'est un jour férié. Mais il y a un deuxième type de jour férié, c'est le Yom Tov, le Moed. Les jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a une grande différence dans la halakha entre ces deux types de jours. Le Shabbat, il est permis de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il est marqué « Vekarata la Shabbat Oneg ». Le Shabbat, on doit être Oneg, c'est-à-dire, on doit être bien, on doit bien se sentir. Et si quelqu'un se sent bien lorsqu'il jeûne, c'est sa façon à lui de célébrer le Shabbat. Le Yom Tov, au Moed, c'est impossible. Nous dit la Gemara pourquoi? Parce qu'il est marqué Vesamarta Bechagecha, tu seras joyeux le jour de fête. Ven Simcha, il ne peut y avoir de Simcha, de joie, que Beachila, dit la Maseret Sofrim, on ne peut pas être joyeux sans manger. C'est la raison pour laquelle le Yom Kippur il ne sera jamais mentionné de Simcha. Nous voyons qu'il y a donc une distinction entre le Oneg, on pourrait appeler ça le bonheur. Chacun trouve son bonheur là où il peut, là où il veut. Et entre Simcha, la joie. Les deux ne sont pas du tout du même type. On ne peut pas être joyeux si on n'est pas rassasié. Mais on peut être heureux lorsqu'on ne l'est pas. Quelqu'un à qui il manque quelque chose n'est pas heureux. Mais de savoir ce qu'il manque et apprécier, ça, c'est chacun selon son appréciation. Vekarat ala Shabbat Oneg, ta façon de célébrer le Shabbat, est-ce que tu mangeras le vendredi soir le couscous ou alors tu préfères t'en passer? C'est ton Oneg, c'est ton problème. Mais ne dis pas qu'il puisse y avoir Simcha. Parce qu'il ne peut y avoir de simcha, de joie, que lorsque le corps est rassasié. Ça, c'est déjà la première distinction et une première définition de la simcha que nous voyons. On va aller un peu plus loin. Il est écrit dans le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Moed Katan, là-bas, la Gemara dit ceci. La simcha n'existe que chez Adam, betorch shelo, en Adam sameach, un homme ne peut être joyeux que lorsqu'il se trouve chez lui. Lorsqu'il est étranger quelque part, il n'y a pas de simcha. Betor shelo, lorsque je suis chez moi, dans mes limites, il peut y avoir une simcha, il peut y avoir une joie. On va essayer de dégager l'idée suivante. Nous avons déjà dit que la simcha, c'est à partir du moment où je suis rassasié de quelque chose, je ne serai rassasié de quelque chose que lorsque je le possède. Betor shelo, ça n'est pas seulement ma maison, mon territoire. Betor shelo, ça veut dire que j'ai ce qu'il me faut. Si j'ai ce qu'il me faut, alors je peux être sa mère. Je peux être heureux sans avoir ce qu'il me faut. Je peux être heureux de courir après quelque chose. Mon bonheur peut être dans l'effort, peut être dans la précipitation, peut être dans le fait de courir toute ma vie après quelque chose, ça peut être mon bonheur. Mais je ne suis pas joyeux, je n'ai pas de simcha. Simcha, il faut être betor shelo, ça veut dire il faut avoir atteint quelque chose. Il faut posséder quelque chose. Non seulement il faut être rassasié, mais en plus il faut posséder quelque chose. Betor shelo. Ce qui appartient à l'homme. Ça, c'est la deuxième définition que nous voyons. Et on va continuer encore un peu plus loin. Et on va poser une question. C'est une question classique. Vous savez qu'il est écrit, Eizeu Ashir, qui est-ce qui est riche, Asameach Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il possède. Parce que quelqu'un peut posséder des millions et des millions, mais il ne se sent pas riche du tout parce que il se rend compte de tous les millions qui lui manquent. Et de même que le pauvre regarde ce qui lui manque, lorsque moi je regarde ce qui me manque, alors je ne peux pas dire que je suis riche. Comme ça disent les Pirkei Avot. Eizeu Ashir, qui est-ce qui est riche, Asameach Bechelko. Donc normalement on doit être content de ce que l'on a. Alors on va imaginer quelqu'un qui essaye de se marier. Il n'arrive pas. On va lui dire, tu sais, mais Eizeu Ashir, Asameach Bechelko, il faut être content de ce que le bon Dieu t'a donné, il ne faut pas chercher plus loin. Et pourtant, la Gemara dans le traité de Yevamot, regardez là-bas parce que c'est très important, c'est au Daf Samerbet, page 62. Asharoui Belo Isha, Asharoui Belo Simcha. Celui qui n'est pas marié n'a pas de Simcha. Eizeu Ashir, Asameach Bechelko. Qui est celui qui est riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Donc quelqu'un peut au contraire être très heureux du fait de ne pas être marié. Comment les chachamim, comment la Torah se permet de se mêler de ses affaires et de lui dire, non, tu es charoui belo simcha. Au contraire, il y a beaucoup de gens dont une partie de leur bonheur vient du fait qu'ils ne sont pas mariés. Et les chachamim amènent et viennent leur dire, mais si tu es content de ce que tu as, eh bien tu es un homme heureux. Là est la distinction entre le bonheur et la simcha. Je peux être achir, je peux être quelqu'un de riche, c'est-à-dire quelqu'un qui se considère comme heureux, si je suis content de ce que j'ai. Même si je sens que je n'ai pas beaucoup, mais il faut que cela me suffise. Les chachamim viennent et disent, attention, Sharui Beloïcha, celui qui se suffit de telle et telle façon, il n'a pas la simcha. On peut se suffire de beaucoup. On peut même se suffire d'un petit bout de pain tous les jours. Et on peut être riche de cela. Mais d'être joyeux, c'est autre chose. Comme si lorsque la Torah fixe un but, tant que je n'ai pas atteint ce but, tant que je n'ai pas fait la mitzvah, tant que je n'ai pas ce qui a été prévu pour moi, je peux m'en contenter, mais je ne peux pas être joyeux. Parce que la joie, c'est d'être arrivé à quelque chose. La joie, c'est non pas de posséder quelque chose. Ça, ça peut s'appeler le bonheur. Seulement la joie, c'est ce qui va un petit peu plus loin. C'est betor shelo. J'ai acquis ma part. Je suis arrivé au bout de quelque chose. Sharui beloisha, celui qui n'est pas arrivé au bout de l'idée de la Torah qui est de se marier, il peut être heureux, mais il ne peut pas être joyeux. Et là, on va aboutir à une autre idée. Il y a dans le Yalkut, qui est un recueil du Midrash, sur les Tehillim, sur les psaumes, et le Yalkut pose une question. Il est écrit, « Ivdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. » Et un autre verset nous dit, « Ivdu et Hashem beira, servez Dieu dans la crainte. » Im beira ech besimcha, si je dois avoir peur de lui. Et je sais que je dois avoir peur de lui. Parce que la vie n'est pas toujours rose. Comment puis-je être besimcha? Veim besimcha, ech beira, et si quelqu'un est joyeux, il n'a plus peur de personne. Comme ça demande le Midrash dans le Yalkut Shimoni. Le Midrash répondant, attention, il ne faut pas mélanger les choses. Que she'ata omed l'itpalel, lorsque tu te mets devant Dieu pour prier, ça, cela s'appelle ira, la crainte de Dieu. Eve sameach, tu peux être joyeux. Pourquoi? She'ata oved l'elokim, parce que tu sers un Dieu, she'en kamou, qui n'a pas d'autre pareil. J'ai peur. Mais je suis heureux d'avoir peur de lui et pas des hommes. Je suis heureux d'avoir peur de lui et pas d'autre chose. Comme ça dit le Midrash. Ça veut dire que la simcha n'est pas incompatible avec la ira, avec la crainte, avec le réalisme, avec le fait de savoir que la vie, quelquefois, se passe difficilement. Et de là, on va aboutir à une idée qui est simple. Lorsque je suis dans le chemin qui est le mien, il est peut-être difficile, il y a peut-être des embûches, il y a peut-être, comme disait Benny Cohen, des malheurs, mais je peux être heureux d'être dans ce chemin-là parce que la joie, c'est celle qui est procurée au moment où on est ce que l'on veut être. Et ça, c'est marqué dans le Midrash d'Anshir HaShirim. Le Midrash d'Anshir HaShirim pose aussi une question. Il y a un verset où il est dit Ze ayom asa Hashem nagila venismecha bo. Ce jour-là, le jour où un homme est heureux, nagila venismecha bo, tu te réjouis bo. Bo en hébreu peut vouloir dire deux choses. Bo, en lui, ce jour, je suis heureux de ce qui m'arrive, ou bo veut dire akadosh baruch hu. Et un autre verset dit, Nagila venismecha bach. Ze ayom asa Hashem. Nagila venismecha bach, en toi, en Dieu. Dit le Midrash donc, bo ne veut pas dire dans l'événement, dans le jour. Veut dire en Akadosh Baruch Hu. Comment peut être heureux? Ba, bo, ba Akadosh Baruch Hu. On peut être heureux en Dieu. Ça sont des formules, qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Midrash, bach, bet, kaf. Bet Kaf, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Be Kaf Be Otiot Shebetoratra. parce que nous avons un chemin. Ce chemin est décrit en 22 lettres dans la Torah. Qui est l'homme qui est joyeux, d'après la Torah? Celui qui est betor shelo. Il a sa part quelque part. Il est dans un vrai chemin quelque part. Il est sûr de lui quelque part. Ça, la Torah appelle ça la joie. Est-ce que ça s'appelle le bonheur? Peut-être que non. Est-ce que c'est du ta'anoug? Peut-être que non. Mais quelqu'un peut être rassasié du fait qu'il soit quelqu'un, qu'il soit dans un chemin qui est le sien, dont il est sûr. C'est pour ça que l'on trouve beaucoup dans les Sfarim une expression « En simra que atara tasfekot ». Il n'y a pas de joie comparable à celle de celui qui n'est plus dans le doute. Lorsque quelqu'un a résolu un problème, vient la simra. Pourquoi? Parce qu'il est betor shelo. Il a maintenant quelque chose à lui. Il est dans le vrai. On va donc répéter un petit peu le chemin par lequel nous sommes passés. Nous avons dit, il ne peut y avoir de simcha que si je suis rassasié, si je suis nourri. Il ne peut y avoir de simcha que si je suis betor sheli. Si ce que je suis, c'est ce que je veux être. Si j'ai quelque chose qui m'appartient. Et il ne peut y avoir de simcha que si je suis sûr de ce que je fais. Oneg, le bonheur, c'est autre chose. Et la différence entre la simcha et le oneg, c'est que la simcha, elle se situe au-dessus. Lorsque je suis rassasié, demain, je vais avoir d'autres envies. Et le fait que j'ai été rassasié hier ne me rassasie pas du tout. Il y en a beaucoup qui se rappellent du bon repas qu'ils ont fait hier. Et lorsqu'on a le ventre vide, ça ne sert pas à grand-chose. La simcha, c'est peut-être autre chose. La simcha, c'est d'avoir une certitude. C'est d'avoir un lieu. C'est de savoir comment on se déplace. Et comme ça, entre parenthèses, on peut répondre à une question. Vous savez qu'il y a une mitzvah de réjouir le chatan et la kala. Quelqu'un se marie, c'est une mitzvah d'aller les réjouir. Non pas de se réjouir, mais d'aller les réjouir. Tout le monde demande, normalement il n'y a pas d'homme plus heureux que celui qui se marie. Si tu me disais qu'il faut aller réjouir celui qui est en deuil, on peut comprendre. Tu dois aller réjouir celui qui a un malheur, on peut comprendre. Mais celui qui vit le jour le plus beau de sa vie, pourquoi faut-il aller le réjouir? Et comment est-ce qu'on va le réjouir? La Gemara dans le traité de Ktubot, elle nous dit ceci. Keitzad meragdim lifne akala. Comment est-ce que l'on danse devant la kala? Kala naa vechasuda. Bet-il, elles disent, il faut dire kala naa, c'est une belle fiancée, une belle mariée. Vechasuda, et elle est pieuse. Bet-shama, ils nous disent, bet-shama, ils disent non. Kala kemochei, n'exagère pas. Dis ce qu'elle est, dis pas mieux. Ça veut dire quoi? Que dans chacun, on peut trouver des côtés positifs. Tu n'es pas obligé d'avoir une expression typée. Chacun a ses bons côtés et on peut toujours trouver du bien chez quelqu'un. Laisse-la comme chi, n'exagère pas. Sont venus Beth Hillel chez Beth Shammai. Et lui ont dit, tu m'as posé une bonne question. Parce que c'est vrai que dans la Torah, il est écrit, Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi du mensonge. Peut-être qu'elle n'est pas si naa que ça, si belle que ça. Peut-être qu'elle n'est pas si pieuse que ça. On va trouver d'autres côtés. Elle est bonne ménagère. Elle est... Donc la question de Beit Shammai est une bonne question. Midvar sheker tichak. Éloigne-toi du mensonge. Pourquoi? Viennent Beit Hillel et disent. Comment ça? Amevi mecher minashuk. Quelqu'un est venu acheter une nouvelle voiture. Yeshabchenu benav, yganenu benav. Il va lui dire, mais tu sais, il y a un modèle au-dessus qui est beaucoup mieux. Ou il va lui dire, qu'est-ce que ta voiture est belle. Eve Omer, il faut dire, et les chachamim ont dit, Yeshabchenu benav. Qu'il soit heureux de ce qu'il a. Pourquoi est-ce que tu es obligé maintenant de lui montrer qu'il pouvait avoir mieux? La simcha du chatan et de la kala, c'est de leur montrer qu'ils ont eu le mieux. Lorsque quelqu'un se marie, c'est vrai qu'il est heureux. Seulement, il pourrait toujours craindre qu'il aurait pu trouver mieux. Et c'est vrai qu'il existe toujours mieux. Il pourrait toujours craindre qu'il n'est pas dans le bon chemin. Il pourrait toujours craindre qu'il fait une erreur. Quelqu'un à qui il arrive un malheur, il ne se pose pas le problème de savoir si maintenant il est dans le bon chemin ou non. Ce chemin lui est imposé. Mais quelqu'un qui se choisit son bonheur, c'est lui qui a choisi le chemin. Ven simcha ke atarat asfekot. Il n'y a de joie que celui qui n'a plus de doute, celui qui est sûr de lui. Mais sa mea chatan vekala, c'est de montrer au chatan et de montrer à la kala quels sont les beaux comtés de celui qu'ils ont choisi. C'est ça la simcha. Et justement, nous disent les chachamim, il faut être mesamiar, il faut rendre joyeux celui qui lui-même cherche son bonheur.
Quelqu'un demande, même si l'on n'est pas convaincu.
On a expliqué qu'on peut toujours trouver des bons côtés chez tout le monde. On n'est pas obligé d'être convaincu totalement, mais on peut toujours être un peu convaincu. Et en plus, la lacha, sachez qu'elle est comme Beit Hillel, et que même si on n'est pas convaincu, on doit pouvoir faire plaisir à un autre. Ici, on voit qu'est-ce que c'est la simcha. La simcha, c'est de dire à quelqu'un, tu es dans le bon chemin, ce que tu fais, c'est bien. Quelqu'un qui est quelque chose, il est betor shelo. Ça n'est pas qu'il possède quelque chose, mais qu'il existe parce qu'il arrive à se définir, il est quelqu'un, celui-ci, il est joyeux. On avait une fois expliqué que pour un homme, sa vie consiste dans le fait de s'enlever des libertés. Vous allez nous dire, ce n'est pas possible. Au contraire, sa vie, c'est d'acquérir des libertés. Mais ce n'est pas vrai. La Torah, elle pense autrement. Elle. Toute la vie d'un homme, c'est de s'enlever ses libertés. On va expliquer pourquoi. Je rencontre quelqu'un dans la rue, je fais connaissance de quelqu'un, et je suis en train de me demander... Quel genre est-il? Par exemple, il voit une vieille dame dans la rue. Est-ce qu'il lui arrache son sac ou non? Ça peut se poser, il est libre. Est-ce qu'il est devant un choix ou il a déjà résolu ce problème? Qui est l'homme en qui je vais faire confiance? Qui est un homme avec qui je vais me lier? Celui qui a choisi son chemin et qui n'y reviendra pas. Il n'a pas voulu de cette liberté, il n'est plus devant des choix. Celui qui est devant des choix... C'est quelqu'un qui est nul. Ça fait que le soir, il se demande en sortant dans la rue s'il voit passer une vieille dame, est-ce qu'il va lui prendre son sac ou non. Il est libre. Nous, nous préférons celui qui n'est pas libre. Parce que celui qui est libre, ce n'est pas un homme. Nous, nous voulons savoir qui tu es. La simcha, c'est de savoir qui nous sommes. Betor shelo, c'est quelqu'un qui possède quelque chose, il sait qui il est. Il s'est aliéné tous les choix possibles. C'est ce que la Torah appelle Néhéman. C'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Ça n'est pas quelqu'un qui est devant des choix. Quelqu'un peut rester toute sa vie devant des choix. Et à ce moment-là, il n'a rien du tout construit dans sa vie. Il n'est rien devenu. Il a peut-être vécu. Il a peut-être joui énormément. Il est peut-être heureux. Mais il n'a rien construit. Il n'est rien du tout. Et si je veux savoir qui il est, je ne pourrai jamais savoir qui il est. Si un homme politique voulait qu'on vote pour lui, et il nous disait que chaque fois qu'il a le choix entre la droite et la gauche, il réfléchit, mais il n'a pas encore pris son parti parce qu'il est libre, celui-là, on ne voterait jamais pour lui. On ne vote que pour celui qui a choisi, celui qui est quelque chose, pas celui qui est devant quelque chose. En simra ka taratas fekot. La simra, c'est lorsque quelqu'un sent qu'il est vrai, il est dans quelque chose. Et maintenant, on va comprendre une phrase qui est marquée dans le Zohar, dans la paracha de Bereshit. Le Zohar dit, Yetzeratov, le bon penchant de l'homme, ce qui est bon dans la nature de l'homme, ba'e exige, veut, oraita, veut se conduire selon la Torah. Yetzerara, ce qui est mauvais dans l'homme, il dit ba'e chamra, veut du vin, veut na'afim. Na'afim, c'est ceux qui satisfont leurs besoins sexuels n'importe comment. Ce qui est bon dans l'homme recherche une voie, un chemin. Ce qui est mauvais dans l'homme recherche un plaisir. L'un, cela s'appelle le simra, et l'autre, cela s'appelle le ta'anoug. C'est vrai que l'homme a droit à une jouissance de ce monde-ci. Tout le problème est de savoir, est-ce que c'est un but ou c'est un moyen? Le Shabbat, on doit pouvoir jouir de ce monde-ci. On ne s'y active pas. On en récolte les fruits. Le Yom Tov, le Moed. Moed veut dire le jour où on se rassemble, le jour où on allait au Beth Amikdash, au temple, pour sentir la présence divine. Ce jour-là, on trouve un chemin. On va vers le Beth Amikdash. De tout Eretz Israël, on allait vers Yerushalayim. C'est pour ça que là, ça s'appelle Moed. À ce moment-là, on n'est pas là, comme tous les Shabbatot, pour être mit aneg, pour jouir de ce monde-ci, mais on est là pour y trouver un chemin. Maintenant, peut-être, on peut arriver à comprendre ce qu'on a dit au début. Yissourim des malheurs, si quelqu'un arrivait à en connaître la signification pleine, si quelqu'un arrivait à connaître et à savoir le sens de ce qui lui arrive, il est possible que cela le conforte dans son chemin. Vous savez qu'il y a des chemins faciles, des chemins durs. Ça n'est peut-être pas parce qu'un chemin est dur que ça n'est pas le mien. On va essayer d'expliquer pourquoi. Et alors il pourrait être joyeux. Une autre joie que celle que nous connaissons. Pas seulement se taper sur le ventre parce qu'on a bien mangé. Quelque chose de plus élevé, de plus pur. Et on va essayer de comprendre comment. Sa mère Beïsourine. Normalement, c'est le majociste. Il est content qu'on lui donne des coups. Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas posé la question? Pourquoi ce monde-là est si dur? On doit pouvoir se poser cette question-là. Maintenant, c'est l'été. Tout le monde va partir en vacances. Celui qui aura le bonheur de s'asseoir une fois dans l'herbe, à 11h du soir, il va entendre des bruits autour de lui, il va réfléchir à ce qui se passe. Il va voir que les papillons sont en train de manger les mouches, les araignées sont en train de manger les papillons, les troisièmes sont en train de manger les autres. Pourquoi est-ce que le monde est dur? Sans penser au Liban. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a une Gemara dans Baba Kama qui effleure ce problème-là. La Gemara dit « Kol haomer akadosh baruch hu vatran » Tout celui qui dit ou qui pense que Dieu vatran, vatran, le vater en hébreu, ça veut dire renoncer. Tout celui qui pense que Dieu n'exige pas beaucoup, que tout est facile, yivatru chayav, sa vie ne vaut pas la peine. Parce que si on n'exige rien de moi, si rien n'est dur, alors je n'ai pas de possibilité, moi, de m'élever. Kol ha'omer HaKadosh Baruch Hu Vatran, je peux me conduire comme je veux. De toute façon, le bon Dieu, il est bon. Il est gentil. Avinu Malkenu. Avant d'être notre roi, c'est notre père. Le père pardonne. Tout celui qui pense comme ça, sa vie ne vaut pas la peine. Yivatru Chayav. Yivatru Chayav, mot à mot, ça veut dire on lui enlève la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie est dure et elle a été construite de cette façon-là parce que pour arriver loin, il faut croire qu'on a besoin de se fatiguer. Pour arriver loin, il faut croire qu'on a besoin de surmonter quelque chose. Si Dieu n'exige rien et s'il pardonne surtout, ça veut dire que les choses ne sont pas importantes. Si elles ne sont pas importantes, pourquoi se conduire comme ceci ou comme cela? Celui qui arrive à être Sameach Beyissourim, on a dit, il ne doit pas en avoir beaucoup. Puisque la Gemara dans le traité de Tanit dit que mes vieux choix laolam, il amène la délivrance. Et la délivrance, elle n'est toujours pas venue. Donc il ne doit pas en avoir beaucoup qui sont heureux là-dedans. Mais si la Torah nous dit que c'est possible, bien que ce soit une chose dans laquelle nous sommes totalement étrangers, nous pouvons au moins voir la nature de ce que la Torah appelle la joie, la simcha. Et comme ça, on peut comprendre la vie que menaient nos pères. On va imaginer un petit peu qu'aujourd'hui, on nous demande la vie que menaient nos arrière-arrière-grands-parents, ou dans le ghetto, ou dans le Mela. Des gens qui travaillaient 12, 14, 15, 16, 18 heures par jour, qui ramenaient à la maison quand ça allait bien, un quignon de pain qu'on partageait entre toute la famille. Comment est-ce que ces gens-là pouvaient trouver la joie? Pour nous, c'est une chose incompréhensible. On raconte que le Gaon de Vilna un jour, il était ce qu'on appelle en galoute. Vous savez que les tzadikim, avant c'était comme ça, ils quittaient leur maison et ils allaient en galoute, ils allaient en exil. Ils allaient voir le peuple juif, ils allaient vivre la vie des juifs de tous les jours. Le Gaon de Vilna un jour est arrivé dans une communauté. Il était très tard le soir, c'était la veille de Shabbat, le jeudi soir. Et il s'est assis pour étudier dans le Beit HaMidrash, dans cette maison d'études. Et il y avait un aveugle à côté de lui. Et cet aveugle disait les Teilim où il étudiait par cœur. Le lendemain matin, sa femme est venue pour le chercher. Il était resté toute la nuit. Et sa femme est venue pour le chercher, il a dit, j'ai entendu la voix d'un homme qui étudiait la Torah, invite-le pour le Shabbat. Le Gaon de Vilna a vu cet aveugle, qui était habillé en haillons, et dont la femme travaillait la nuit. Où est-ce qu'elle travaillait? Elle travaillait à la boulangerie. Et son salaire, c'était de pouvoir ramasser la pâte qui restait et de l'amener à la maison. Il n'a pas voulu aller. Il lui a dit, il est interdit de manger Souda chez Enamas Peket le Baalea, un repas dont le propriétaire ne peut pas se suffire. Il n'a pas voulu aller. Et cet homme lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Viens chez moi, tu vas voir une Souda comme tu n'en as jamais vu. Et il est allé chez lui. Et le Gaon de Vilna raconte, sa femme avait deux travaux. Elle travaillait le jour, elle travaillait la nuit. Le jour, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était à l'abattoir et c'est elle qui plumait les volailles. Du fait qu'elle plumait les volailles, on lui donnait le cou et les pieds. Et cet aveugle, ce soir de Shabbat là, est venu lui donner un grand bol de soupe ou de vénager deux ou trois morceaux de graisse. Et lui a dit, goûte, est-ce que tu as déjà vu une soupe aussi bonne? Et ensuite, il a reçu une petite challah qui avait été faite avec ce que sa femme avait récolté chez le boulanger. Et il a dit, est-ce que tu as jamais goûté une si bonne challah? Et le Gaon de Vilna a dit, ce jour-là, j'ai compris Qu'est-ce que ça veut dire Ezehu Ashir à sa mère Bechelko? Imaginons maintenant qu'on nous demande de vivre cette vie. Comment est-ce qu'on ferait? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me raconter. Il était à une bar mitzvah. Il m'a dit à cette bar mitzvah, Baruch Hashem, aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Il y avait 3 orchestres, 4 sortes de danseuses. Et il m'a dit, ça m'a rappelé, c'était quelqu'un qui venait de Tunisie. Il m'a dit, ça m'a rappelé ma bar mitzvah à moi. Il me dit, à 50 ans, j'ai fait ma bar mitzvah. Et ma bar mitzvah, elle était un peu différente. Il me dit, mais j'ai pas osé leur dire, parce que de quoi est-ce que j'aurais eu l'air? Il me dit, je vais raconter comment c'était ma bar mitzvah. Pour ma bar mitzvah, on m'a offert des pantalons longs. Qu'est-ce que c'était les pantalons longs? C'est que ma mère prenait des vieux pantalons de mon père, et on les coupait à moitié. Et puis c'était les pantalons longs. Et on arrivait à avoir un morceau de viande, et avec ce morceau de viande, on faisait un plat où toute la synagogue venait se rassasier, et c'était ça la bar mitzvah. Et il m'a dit, mais en regardant le bar mitzvah, je ne sais pas s'il avait la même joie que moi le jour de ma bar mitzvah. Et là est le problème. Simcha, ça veut dire, on a dit la différence entre le tanoug et la simcha, c'est que la simcha vient du fait que l'on sait ce que l'on fait et que l'on est sûr de ce que l'on fait. La raison pour laquelle nous n'aurions aucune simcha aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas du tout sûrs de ce que nous faisons. Nous n'avons pas de chemin tracé devant nous. Nous poursuivons une chimère qui est le ta'anoug. Se rassasier encore et encore un peu plus et encore un peu plus. Donc toute l'idée de simcha nous a quitté totalement. C'est la raison pour laquelle, même lorsque l'on a un mariage, une bar mitzvah, il est difficile de parler de simcha. Un jour, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, c'était une formidable simcha. Seulement, tout le problème, c'est le lendemain. Parce que le lendemain, il faut passer à la banque. Et là, on voit l'envers de la simcha. Ça, c'est notre problème à nous. Alors, il est possible que pour nous, ces gens-là, c'était des gens smechim beisorim. Maintenant, on peut comprendre ce que dit le Midrash Tanchuma et ce que dit la Gemara dans Ta'anit. Ces gens-là, c'était des gens qui avaient des yisorim. C'était des gens dont on pourrait penser qu'ils étaient malheureux. Mais ils arrivaient à la simcha, ils étaient smechim beisorim. Et alors maintenant, on a peut-être une question. Au lieu d'avoir une réponse, on a une question. La Gemara dans le traité de Ta'anit, on a dit, la Gemara nous dit, celui qui est sa mère Beïsourim et vit Yeshua Laolam, il amène à délivrer en ce monde. Il y a des générations de juifs qui ont été sa mère Beïsourim. Eux, ils savaient vivre Besimcha dans la joie, dans les Yisourim les plus grands, dans les difficultés les plus grandes. Alors pourquoi la Yeshua n'est pas venue? Maintenant, ça devient une question. Avant, on avait la réponse toute prête. Tu sais pourquoi la Yeshua, tu sais pourquoi la délivrance n'est pas là? Parce que qui est-ce qui peut arriver à être sa mère Beïsourim? Qui peut arriver à être joyeux lorsque ça ne va pas? Et la réponse, elle est claire. Eux, ils ne pensaient pas que c'était des Yisourim. Ils pensaient que ça allait bien. Eux, ils ne voyaient même pas ça. Parce que Ezehu Ashir à sa mère Bechelko. Et ça, en vérité, c'est notre problème. Notre problème, on avait dit, pour avoir un peu de simcha, il faut être rassasié. Si on n'est jamais rassasié, on ne peut pas avoir de simcha. Nous, on est tous comme les Yom Kippour. On a toujours faim. Puisqu'on a toujours faim, on ne peut pas avoir de simcha. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar vient, il dit, attention, tout dépend des besoins que tu as. Le Yetzer HaTov, il y a des bons besoins. Ces bons besoins-là, ils n'empêchent pas la simcha. Seulement, Yetzer Hara, les mauvais besoins. Et on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ces mauvais besoins. Nous dit le Zohar, on sait ce que c'est. Il dit, c'est le vin. c'est une conduite mauvaise. Celui qui a besoin du vin, celui qui a besoin de satisfaire tous ses instincts, est-ce qu'en fin de compte, ça n'est pas pour éviter tout le problème de la simra, pour éviter de se demander où il est, qui il est? Est-ce qu'il, lui, il a un betorchelo? Est-ce qu'il a quelque chose à lui? Parce que lorsque je cours et je recours tous les jours pour la même chose, peut-être j'évite ce problème-là. Et ça, c'est le problème du rat. Le mal, c'est peut-être de courir après quelque chose, simplement pour ne pas se mesurer à ce qui est peut-être dur, mais ce qui est bien. C'est la facilité. Et c'est la raison pour laquelle on n'est jamais rassasié. Parce que si on était rassasié, on ne pourrait plus courir. Et toute cette course-là, elle n'est que pour éviter de savoir est-ce que nous avons Betor Sheli. Est-ce que nous avons quelque chose qui est à nous? Est-ce que nous avons choisi un jour quelque chose? Ou est-ce que nous sommes toujours libres de tout? On a dit avant, Néman, la personne en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est un homme, c'est celui en qui le deuxième peut avoir confiance, parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'est-ce qu'il y a Betor Shelo, il sait ce qu'il y a au fond de lui, parce qu'il a choisi. Peut-être toute cette course-là, dont le Zohar dit que ça c'est ras, c'est mauvais, c'est peut-être pour ne pas avoir à choisir. Et peut-être ça c'est le problème. Il est possible, ça ce que nous dit la Torah. Simcha, on peut être joyeux. On peut être joyeux même lorsque ça ne va pas. Parce que ça aille ou que ça aille pas, c'est mon chemin, c'est ma vie. Alors je suis dans le vrai. Mais si ça n'est jamais ma vie parce que je n'ai jamais rien choisi, et que je ne pourrai jamais dire que quelque chose m'appartient, parce que tout ce que j'ai eu, c'est déjà passé. Alors à ce moment-là, je ne peux pas être joyeux. Et maintenant, on va comprendre. Il est marqué dans la Torah, dans la paracha de la Tochacha. La Tochacha, ce sont les malédictions. Il est marqué là-bas, Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav. Tu n'as pas servi ton Dieu besimcha. Alors on me demande non seulement de faire les mitzvot, mais en plus de les faire besimcha. Il est possible que si je fais la mitzvah sans la faire besimcha, c'est parce que je ne suis pas sûr qu'elle est mienne. Je la fais parce que j'ai peur de ceci. Je la fais parce qu'il va m'arriver cela. Mais ce n'est pas betor sheli, ça n'est pas à moi. Ça n'est pas mon chemin. Alors ce n'est pas besimcha. Ça ce que dit Akadosh Baruch Hu. Si un jour il t'arrive du mal, tu sauras que c'est tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav. C'est parce que tu n'as pas fait ça avec joie. La simcha procure une joie. La joie d'être dans le vrai. La joie de posséder quelque chose. Parce que en melavim la adam, il n'y a rien qui puisse accompagner l'homme que la mitzvah. Parce que la mitzvah c'est la sienne. Tout le reste, c'est quelque chose qu'il a acquis et dont il sera obligé un jour de se débarrasser. Ça n'est pas à lui. Ça n'est que les choses qu'il utilise. La mitzvah, c'est un comportement. Le comportement, c'est le mien. Et ce que j'ai, on ne pourra jamais me l'enlever. Et peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas besimcha, c'est parce que nous ne savons pas ce que c'est la simcha. Parce que nous croyons et nous mélangeons entre la simcha et le oneg. Mais si nous sommes sûrs du fait que la simcha ce n'est pas cela, alors peut-être que nous allons remarquer que souvent nous sommes oui besimcha. Et nous sommes plus que nous croyons. Au moment où quelqu'un fait une mitzvah, au moment où il le fait parce qu'il est sûr que c'est son chemin, au moment où quelqu'un fait selon ce que lui appelle le bien, ça c'est la simcha, ça c'est la joie. Tout le reste, c'est des ersatz pour être rassasié, pour arriver à la simcha, mais ce n'est pas la simcha. Et comment est-ce qu'on va voir maintenant ça? Si lorsque je me livre à ce que j'ai besoin, à ce que j'ai envie, à ce que je recherche dans la vie, une fois l'avoir fait, je n'ai pas de simcha, je n'en suis pas heureux parce que j'ai envie de le refaire de nouveau, et que je n'ai comblé qu'un manque, là, cette action-là, elle ne peut pas aboutir à la simcha. Mais si ce que j'ai fait, ce n'est pas pour combler un manque. C'est une conduite que j'ai choisie. Parce qu'un jour, dans une donnée déterminée, j'ai pensé que je ne suis plus libre, que c'est comme ça qu'il faut agir. Alors là, je serai Wibbe Simcha. Et c'est comme ça qu'on va savoir quels sont les actes qui me procurent une Simcha et quels sont ceux qui ne m'en procurent pas. Et peut-être je pourrais revenir à ce qui existait dans le peuple juif auparavant, qu'on est en train d'oublier. C'est d'avoir des joies que l'on tire de soi-même et pas des autres, et pas des objets, et pas de ceux dont on se rassasie. Aujourd'hui, on ne tire de joie que de ce qui est extérieur. Si je fais une fête, sans ceci, sans cela, je n'ai pas de joie. Ça, c'est le tannouk, c'est pour arriver à la joie. Mais la joie, on la tire de soi-même. La joie, on la tire de ce que l'on ressent, qu'on est betor chez l'eau. On est là où il faut. Alors là, peut-être qu'on va commencer à apprécier le fait qu'il y a beaucoup de joie. Et nous ne les apprécions pas, et pour nous, elles ne nous donnent pas de joie, parce qu'on les assimile aux autres. On assimile la mitzvah à quelque chose dont on tirerait un profit. On assimile la mitzvah comme quelque chose d'extérieur. Mais si on faisait vraiment nos comptes, et on voyait que lorsque je fais quelque chose que je juge qu'il faut faire, lorsque je suis rentré dans un chemin, lorsque moi j'ai choisi déjà quelque chose, je ne suis plus libre, j'ai choisi, et je voyais qui je suis à ce moment-là, peut-être que je serai Bessimra. Pour terminer, je vais vous dire juste, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Il y a à Paris un vieux rabbin qui s'appelle Rav Kadouri. Rav Kadouri est un homme de plus de 90 ans. Et ce qu'il a de particulier, à mon avis, c'est que vous lui racontez les plus grands malheurs du monde. Les plus grands malheurs du monde. Il vous donne une bracha et il éclate de rire. Alors au commencement, on pense que c'est un peu incongru. Seulement, on se rend compte qu'il n'éclate pas de rire seulement lorsqu'on lui raconte les malheurs. On vient, on lui dit bonjour, il éclate de rire. Il est tout heureux. C'est vrai que c'est rare des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont rares. Mais enfin, on ne trouve pas souvent des gens à qui on demande l'heure et qui sont tout heureux de vous donner l'heure, ils sourient, ils sont béats de vous avoir donné l'heure. D'où est-ce que cela vient ? À mon avis, cela vient de ça. Quelqu'un qui est sûr de son chemin, quoi qu'il rencontre sur son chemin, qui il rencontre sur son chemin, quel que soit l'événement, c'est son chemin à lui, c'est sa vie. Et il est joyeux de l'être. Il est joyeux de la vivre. Il est joyeux de la vie de cette façon. Yivdo et Hashem besimcha. Lorsque quelqu'un prie, il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de quelque chose, c'est sérieux. Il ébéira, il est dans la crainte de Dieu. Mais en ce moment-là, il peut être besimcha, il peut être joyeux en même temps. Pourquoi il est joyeux? Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça marche et il sait qu'il est dans le vrai. Chaque fois que je pense être dans le vrai, dans quelque chose, je peux être joyeux.
Je crois qu'on va passer à une série de questions.
Pensez-vous que c'est dans l'adversité que l'homme progresse?
D'accord. Deuxième question.
Comment peut-on être sûr de son chemin?
Comment peut-on être sûr de son chemin? Oui.
On dit effectivement d'être pour être joyeux, il faut avoir des certitudes. Pas avoir des certitudes, c'est-à-dire ne pas avoir de doute. Ne pas avoir de doute, c'est avoir un maître. Alors effectivement, est-ce qu'avoir un maître, c'est suffisant pour être joyeux?
Pour être joyeux, c'est la certitude de ne pas avoir de doute, et avoir de doute, c'est avoir un maître. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un maître? Oui.
Quelqu'un relate le fait que des rabbanim se mettaient à pleurer sur leur lit de mort parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait assez de mitzvot durant leur vie, parce qu'ils n'allaient tout simplement plus pouvoir en faire. Cela s'appelle la simcha ou le ta'anoug?
Oui. D'autres questions? Oui.
Alors vous avez dit aussi pour Shabbat que on pouvait jeûner et donc il y avait la joie ou pas. Et vous avez dit que dans Kippour c'était pas possible. Alors qu'on dit que c'est Shabbat, Shabbat.
D'accord, on va répondre.
Ok, Kippour par rapport au Shabbat, d'accord.
Parce... Hein?
Chut. On répète. Kippour par rapport à Shabbat. Shabbat, on peut jeûner, Kippour, on ne peut pas, mais comment se fait-il, puisque Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. J'ai deux questions à poser au Rav Emal. La première, vous avez dit, il faut être sûr de son choix. Il y en a qui sont très sûrs de leur choix, mais pour manger du jambon, pour faire des choses strictement hors de la Torah. Pourtant, ils sont sûrs, ils se disent sûrs. Et vous avez dit qu'on ne vote pas pour quelqu'un qui ne sait pas s'il doit aller à gauche ou à droite, mais s'il a choisi un chemin, il est sûr de lui, mais dans le mauvais chemin. Que doit-on en penser? Et la deuxième question, un rave m'a raconté un jour qu'on mettait les dames en haut dans les synagogues, on les séparait des hommes, parce que c'était une très vieille histoire, parce qu'on dit qu'à la fin de Sukkot, il y avait la fête de Beth Hashoeva, et celui qui n'a pas connu et goûté à cette fête ne sait pas ce que c'est que la joie dans le monde et dans ce monde-là. Alors la question est la suivante, parce qu'on nous dit qu'à l'époque de la fête de Beth Hashoeva, les hommes et les femmes étaient mélangés, c'était pas bien. Alors on a séparé les hommes des femmes, les hommes étaient devant, les femmes derrière, mais les premières femmes et les derniers hommes, il y avait aussi des choses pas bien qui se faisaient. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il fallait totalement séparer. La question que je vous pose, Rav Emal, c'est que le Yetzer Hara, dans cette époque où c'était le temple, où c'était la Kdoucha totale, il tombait et les juifs fautaient. Que doit-on penser aujourd'hui du juif qui faute quand il n'a rien de tout ça, quand il n'a pas cette armature et ce bouclier qui est toute la Kdoucha de l'époque?
Bon. Alors on va essayer de répondre au fur et à mesure. Je pense qu'il y a une cassette que M. Groner a enregistrée qui s'appelle Les malheurs et le peuple juif. Non seulement la Torah pense que l'on grandit dans l'adversité, mais la Torah pense que s'il n'y a pas de Nissan, il n'y a pas d'épreuve, on ne peut pas grandir. On va essayer d'expliquer pourquoi et comment ça se passe. En vitesse, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Si quelqu'un vient me demande, est-ce que je suis capable de sauter, disons 2 mètres, 2 mètres 50, si je n'ai pas essayé, je ne pourrai jamais savoir de quoi je suis capable. Et donc, lorsque quelqu'un ne sait pas de quoi il est capable, pour l'instant, il est incapable. Pour arriver à des performances, on est obligé de se fatiguer. Il est obligatoire que cela soit dur. Pourquoi? Parce que d'arriver à des limites, ça n'est seulement que lorsque l'on pousse vers les limites. Et la nature de l'homme, au contraire, le pousserait à ne pas chercher ces limites-là, mais simplement à se nourrir de ce qu'il trouve. Et on va donner un exemple très très simple. Il y a une fois un rabbi dans la Gemara qui disait, regardez comme je suis mieux loti que Adam Arishon. Adam, le premier homme. Il était pourtant dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Mais pour manger, il fallait qu'il sème. Fallait d'abord qu'il laboure, fallait en plus qu'il récolte. Pour s'habiller, fallait qu'il connaisse 5 métiers. Pour faire des chaussures, un 6e. Il dit, moi, j'ai tout ça à ma disposition. Il y a un tailleur qui travaille pour moi, il y a un cordonnier qui travaille pour moi, il y a un paysan qui travaille pour moi, et moi je fais un petit peu de commerce. Le paysan, il a le cordonnier qui travaille pour lui, moi qui lui fournis ce dont il a besoin. On s'en sort beaucoup plus facilement que Adam Arishon. Non seulement ça veut dire qu'on ne progresse pas s'il n'y a pas d'adversité, mais en plus ça veut dire que sans effort, et l'effort, malheureusement, et ça on ne va pas revenir, pourquoi est-ce que le bon Dieu a-t-il créé le monde comme ça, mais malheureusement l'effort, il n'est demandé dans son expression la plus grande que dans l'adversité. Je n'ai pas besoin de faire d'immenses efforts lorsque tout va bien. Parce que la définition de ce que tout va bien, c'est justement que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. On n'a jamais vu quelqu'un qui rentre du bureau le soir après 12 heures de travail et qui pense que tout va bien. Au contraire, il pense qu'il a dû faire un effort extrême. Pour lui, c'est ça l'adversité. On n'obtient rien sans se dépasser. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Et lorsque je ne sais pas de quoi je suis capable, je suis incapable. Et de plus, sans entraînement, c'est-à-dire sans effort, je suis effectivement incapable. La différence entre celui qui arrive à franchir 100 mètres en quelques secondes et moi, c'est qu'il a travaillé des jours et qu'il a transpiré alors que moi je ne l'ai pas fait. Il est donc capable de quelque chose duquel je suis incapable. Pourquoi est-ce que cela passe par l'effort? Justement parce que, de même qu'un muscle, il faut le faire travailler pour qu'il puisse donner toute sa mesure. De même un homme, il faut le faire pour qu'il puisse progresser, il faut qu'il puisse franchir quelque chose. Et ce franchissement-là, c'est un peu de l'adversité. Il y a des gens, mais ils sont rares, chez qui non seulement ils se révèlent dans l'adversité, mais en plus, lorsqu'il n'y a pas quelque chose de haut qu'on leur demande, ils sont totalement nuls. Il y a des gens qui ne se révèlent que au moment où on leur demande un immense effort. Et même les petits efforts, ça ne les fait pas se révéler. Mais la majorité des gens vont progressivement. Plus l'effort qui est demandé est grand, plus ils révèlent de leur capacité et donc plus ils sont capables. Parce que celui qui n'a rien révélé, il est incapable. On va dire même pire, la seule façon de savoir comment s'est passée la vie d'un homme, c'est de regarder sa mort. Comment se conduit-il au moment où il sait qu'il va mourir? Celui qui appelle sa maman, on se rend compte à quel stade il en est. On se rend compte avec quelle figure il a parcouru les 85 ans auxquels il est en train d'arriver. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le problème de savoir quand est-ce qu'on est sûr, quand on n'est pas sûr. Alors là, il faut savoir que la simcha est relative. Il y a, et tout homme a, ce que l'on appelle une conscience. Tout homme a chez lui des choses dont il est sûr qu'elles sont bonnes et d'autres dont il est sûr qu'elles sont mauvaises. Et on va essayer d'expliquer un peu. On a dit tout à l'heure que de devenir quelqu'un, c'était de s'enlever des choix. À ce moment-là, on est obligé de diviser en trois parties. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas libre du tout. Par exemple, quelqu'un me dit, tu vois, Rabbi Akiva, les Romains sont venus. Il nous dit la Gemara, ils ont pris des peignes en fer et lui ont arraché les chairs avec. Et lui, il souriait. Il souriait parce que il était joyeux ce jour-là. Parce qu'il a dit, Matai tavo mitzvah azot le yadiva kaimena. Quand est-ce que viendra cette mitzvah-là et que je puisse l'accomplir? C'est-à-dire de mourir parce que l'on ne veut pas se renier. Il était joyeux, Rabbi Akiva. Cette joie-là, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je sais qu'elle est exclue pour moi. J'en suis pas capable. On a donné l'exemple de celui, sa joie la plus grande, c'est de prendre les sacs à main aux vieilles dames. Ça, je sais, je peux vous l'affirmer, vous pouvez me faire confiance, c'est pas pour moi. Je n'ai pas de choix là-dedans. J'ai déterminé une fois pour toutes, je ne le ferai pas. Ça veut dire que, et en haut et en bas, il y a des choses dont je pense que je n'ai pas de liberté. Pourquoi? Parce que c'est les problèmes que j'ai résolus une fois pour toutes. Les uns négativement, les autres positivement. Mais il y a toute une masse de problèmes que je n'ai pas résolus. Et dans ces problèmes-là, je suis libre. Un homme, une vie, c'est de pouvoir un jour se présenter devant Akadosh Baruch Hu et de lui montrer qui il est. Pas devant quel choix est-il placé, mais qui il est. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'espace vide au milieu. Tous les problèmes sont résolus, ou en haut ou en bas. il est à espérer que la barre ne soit pas vers le bas, mais elle soit vers le haut. Mais c'est ça le but de la vie, c'est d'être quelqu'un. On est quelqu'un lorsqu'on s'est déterminé par rapport au choix qui était possible. Mais on n'est jamais sûr, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr. Et on va vous raconter une histoire. Il y a un jour un rav qui s'appelait Rav Yitzhak Elchanan Spector. C'était le décisionnaire de la génération d'entre 1840 et 1880. Et un jour, il a raconté cette histoire. Il a dit que il a rêvé une nuit. Il est arrivé devant le tribunal du Ribono Shel Olam, devant le maître du monde. Et on lui a montré ses mitzvot, ce qu'il avait fait de bien, on lui a montré ce qu'il avait fait de mal. Et on lui a montré qu'entre les choses qu'il avait fait de mal, il avait tué. Alors là, il s'est rebellé, il a dit non, ça, je suis sûr que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais tué personne. Alors on lui a dit, viens, on va chercher celui que tu as tué. Et il a vu un monsieur qui le ressemblait étrangement. Un peu plus grand que lui. Un peu plus érudit que lui. Un peu meilleur que lui. Et on a demandé comment tu t'appelles. Il a dit Yitzhak Elchanan Spector. Il a dit c'était moi en mieux. Et on lui a dit c'est celui-ci que tu as tué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois je peux penser que mes choix, ou plutôt les choix dont je pense qu'ils sont exclus pour moi, en vérité, j'en suis peut-être capable. Et la seule raison pour laquelle je les ai exclus, c'est parce que je me sentais incapable. La simcha la plus forte, c'est lorsque quelqu'un est sûr d'être arrivé au maximum dans une chose. Il y a des choses dont on est sûr qu'elles sont bien, et dont on est sûr qu'on est au maximum. Ça, c'est la simcha. Il est vrai qu'à la fin de sa vie, quelqu'un peut faire le compte et se dire « Mais peut-être j'ai tué celui que j'aurais pu être. » Et toute la simcha que j'ai eue, on va me montrer qu'elle a été très banale parce que j'aurais pu en avoir une beaucoup plus grande. C'est possible. Là-dedans, il y a l'incertitude. De savoir jusque où peut-on aller, là on a une incertitude. Mais qu'il y a des actions dont on est sûr qu'elles sont bonnes et d'autres dont on est sûr qu'elles sont mauvaises. Parce que automatiquement un homme s'aliène des choix. Automatiquement, un homme est obligé de vivre. Donc, obligatoirement, un jour, il a décidé qu'il y a des choses qui sont au-dessus de lui, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en dessous de lui. Et là, on va arriver à l'histoire du maître. Le maître, vous savez, qu'il est déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. Ça veut dire que c'est une référence. Mais il faut juger de la référence. Et pour ça, un homme est libre. Et s'il est libre, c'est qu'il est capable de juger. Chacun choisit son maître. Il est possible que quelquefois j'hésite et me dise, il y a mieux que celui-là. Ça n'est pas l'étalon, on peut trouver mieux. D'accord. Alors je suis obligé d'aller chez l'autre. Et il n'existe pas qu'il n'y ait pas quelque chose que je puisse recevoir et de l'un ou de l'autre. Ça veut dire que le problème de l'incertitude, c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que la recherche de la vérité, elle procure autant de simcha que le fait de l'avoir découverte. Parce qu'il y a une certitude que je peux avoir, c'est que je suis à la recherche de la vérité. Et cette simcha-là, c'est aussi la mienne. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être sûr d'avoir trouvé. Mais on est obligé d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir trouvé. Et c'est ça ce qui compte. Pourquoi? Parce que peut-être je ne sais pas de quoi je suis capable. Je ne sais pas quelle est la vérité absolue. Mais ce que j'ai recherché, ce que j'ai trouvé, et il n'existe personne qui recherche et qui ne trouve pas certaines vérités dont il est sûr, dans celle-ci, il existe la simcha. C'est vrai, et c'est pour ça que la Gemara dit, il n'y a de vraie simcha que dans l'Olam Haba, dans le monde futur, là où il n'y aura que des certitudes. Mais de dire que lorsque je me déplace, peut-être même le fait de me déplacer, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, ça c'est faux. Le fait de rechercher quelque chose, et de le rechercher de toutes ses forces, ça c'est aussi une vérité. Et l'incertitude, si vous faites les comptes, dont, selon on est sûr que c'est mal, on n'a pas beaucoup d'incertitude. Je vous donne un exemple. Un jour, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit, moi, je ne suis pas sûr que la Torah est vraie. Bon. Et par exemple, et je fais le Shabbat, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. Donc, j'ai un vrai problème. Alors, je lui ai demandé, mais si c'est faux, alors là, tu as fait l'imbécile, tu as fait quelque chose de mal, tu as détruit tout le monde, tu as embêté tout le monde. Ce qu'il devrait y avoir de sûr chez l'homme, c'est qu'il y a des actions qui ne peuvent pas être mal. Elles peuvent ne pas être vraies, mais mal, elles ne peuvent pas être. D'être sûr que je suis dans le bien, je suis sûr que je ne suis pas dans le mal. Ce qu'il est possible, c'est qu'il y a d'autres vérités encore que je ne perçois pas, et c'est à moi de les rechercher. Mais de dire que quelqu'un qui n'est pas sûr que la Torah a été donnée au Sinaï et de mettre les tefilines, c'est quelque chose de mal, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a une limite au doute. Et non seulement il y a une limite au doute, mais il faut savoir une chose. C'est que de douter ou de ne pas douter, c'est une question de volonté et non pas une question de raisonnement. Là, je ne voudrais pas m'engager dans ce débat, mais je suis sûr de cela. Et pour une raison très simple. Il n'y a rien qui n'obéisse pas à la volonté. Rien. Pour la bonne raison. Que la seule chose qui est illimitée chez l'homme, c'est la volonté. Ce qu'on appelle le Ein Sofi. C'est une chose qui n'a pas de limite, c'est la volonté. Tout le reste, les raisonnements, l'intellectualisme, la logique, toutes ces choses-là ont une limite. La seule chose qui n'a pas de limite chez l'homme, c'est la volonté. C'est-à-dire que l'homme ne croit que dans ce qu'il a envie de croire, n'est sûr que dans ce qu'il a envie d'être sûr. Ça veut dire que c'est facile de rester dans le doute parce qu'on a envie de rester dans le doute. Mais si on n'avait pas envie de rester dans le doute, peut-être qu'on ne serait pas dans le doute. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ça il faut le savoir. On ne peut pas s'engager maintenant dans un débat philosophique là-dessus, mais il n'y a rien qui ne soit soumis à la volonté, parce que la seule chose d'illimité qui ne vienne pas de l'homme, c'est sa volonté. Ça c'est une chose qu'il faut savoir. Je passerai l'histoire du Yom Kippour, c'est très simple. Vous savez que Shabbat Shabbaton ne veut pas dire que puisqu'il faut faire un kiddush le Shabbat, il faut en faire deux à Yom Kippour, et puisqu'il faut manger deux chalot le Shabbat, il faut manger quatre à Yom Kippour. Shabbat Shabbaton veut dire que les interdictions, les melachot négatives, c'est-à-dire la façon de respecter le Shabbat, elle est la même que celle de Yom Kippour. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Shabbaton. Mais le fait de consacrer le Shabbat par une bonne nourriture, le Oneg Shabbat, c'est une chose qui n'existe pas à Yom Kippour.
Je voudrais que le Rav Eman termine quand même sur une réponse à une question importante. Vous avez dit que quand on n'est pas marié, il n'y a pas de joie. Je sais que le cours de ce soir, ce n'est pas sur le mariage, mais c'est sur la joie. Est-ce que le célibataire qu'ils sont, enfin les célibataires qu'ils sont en face de vous et de nous, est-ce qu'ils maîtrisent cette responsabilité de l'être ou de ne pas être, donc marié ou célibataire, et d'avoir ou ne pas avoir cette joie? Est-ce que c'est entre les mains de l'homme ou entre les mains de Dieu? Est-ce que c'est un choix de l'homme? Non, c'est, la question était très sérieuse, hein, c'était pas pour plaisanter.
Alors, non seulement c'est une très sérieuse question, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Il faut savoir une chose. Là, il faut être très clair. Cela ne dépend uniquement que de l'homme. Seulement, là, on va diviser la question en deux. Ça dépend de deux hommes, pas d'un. Ça veut dire que même si moi, j'ai trouvé l'âme sœur, mais elle n'a peut-être pas trouvé l'âme frère. C'est là où c'est difficile. Mais lorsque c'est le contraire, ça dépend que de moi. C'est-à-dire, je rencontre une jeune fille et elle veut se marier avec moi. Enfin, je ne parle pas de moi. Que je veuille ou que je ne veuille pas, cela ne dépend pas du bon Dieu, ça dépend de moi, uniquement de moi. Ça veut dire que celui qui est célibataire, on ne peut pas parler de statistiques, majorité, pas majorité, on ne sait pas combien, souvent, très souvent, c'est qu'il ne veut pas des occasions qui lui sont offertes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, quelqu'un est allé chez le Stapler, vous avez peut-être entendu parler de lui. Quelqu'un est allé chez le stapler, il lui a dit, ça va pas là chez moi, je suis à mon 40e shidour. Présentation. Il dit, le bon Dieu, il m'en fait voir 40 déjà. Il dit, alors où est-ce qu'il est mon zivoug? C'est laquelle la mienne? Où est-ce que, comment je vais la trouver? Stapler, il a rigolé, il lui a dit, mais c'était la deuxième. Il lui dit, pourquoi la deuxième? Il dit, je crois que le bon Dieu est en prison de 40, il n'a rien à faire. Une, deux, t'es trois. Ça y est, ça suffit. C'est toi qui n'as pas voulu de la deuxième. Et il dit, c'est vrai que c'est pas moi qui ai voulu de la deuxième. Il dit, alors pourquoi tu parles du bon Dieu? Voilà le problème. Il y a une obligation de la Torah. Et on va essayer de relier ça à notre problème de la Simcha. Il y a marqué qu'un homme, lorsqu'il se marie, « Yosamach et Ishto », mais c'est valable aussi pour les femmes, il doit réjouir sa femme. Ça veut dire réjouir. Il doit lui donner sa place. On a dit, qu'est-ce que c'est la Simcha? C'est d'avoir une place. Une femme, elle doit donner sa place à son mari. Se marier, c'est de donner quelque chose à l'autre. Alors là, on ne comprend plus pourquoi les gens sont tellement difficiles. On te dit, tu sais, tu peux donner à celle-ci. Ah non, non, je ne veux pas donner à celle-ci. Bon, d'accord. Pourquoi elle ne mérite pas? Alors une deuxième, elle ne mérite pas. La quarantième, elle ne mérite pas. C'est bizarre. Son mari a fait le compte autrement. Il a dit, je ne veux pas prendre de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. L'obligation de la Torah avait Simach et Ishto. Lui n'a plus aucune obligation d'être joyeux avec sa femme. C'est l'obligation de l'autre. Seulement lui juge que l'autre n'est pas capable de le rendre heureux. Pourquoi? Parce qu'il en veut toujours plus. Et de toute façon, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se décider avant le mariage. Et ceux qui n'arrivent pas à se décider avant le mariage, souvent, même après le mariage, ils ne sont toujours pas décidés. Et ça, c'est assez embêtant, ça. Parce que c'est pas parce qu'il a passé la bague au doigt à une qu'il ne peut plus se décider pour des autres. Et s'il ne fait pas obligation parce qu'on ne peut plus revenir là-dessus ou parce qu'on s'est engagé, tout ça, c'est embêtant. Normalement, lorsque j'ai quelqu'un à qui faire plaisir, je ne cherche pas de deuxième. Si vraiment quelqu'un a tellement de choses à donner qu'une femme ne lui suffit pas, la Torah lui permet de prendre une deuxième. Ça, le problème. Tout le problème est là. Le problème de savoir quelles sont ses exigences. Ça, ce qu'il est venu le Zohar nous dire. Il y a des exigences et on doit savoir de quel côté elles viennent. Le tout est de savoir quelles exigences on a. Et selon les exigences, on arrive à la Simcha. Le problème d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un grave problème. Pas plus tard que hier soir, une jeune fille est venue et m'a dit, il y a beaucoup de garçons juifs, ils ne veulent pas se marier avec des filles juives. Pourquoi? Parce qu'elle leur rappelle leur mère. Évidemment, une Goya, ça ne lui rappelle pas de mauvais souvenirs. Évidemment. Alors, c'est ça le problème. Promets de savoir. Un homme doit d'abord décider où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut et quelles sont ses exigences. Et on va peut-être même aller plus loin, puisque l'heure n'est pas passée. Il y a une Gemara dans le traité de Nadarim et dans le traité de Nazir. La Gemara raconte ceci. Un jour, il y avait un homme qui est venu chez Rabbi Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et il a voulu amener le sacrifice de Nazir. Nazir, vous savez ce que c'est? Nazir, c'est celui qui s'interdit le vin, qui s'oblige à se laisser pousser les cheveux, et qui, le jour où son naziré a terminé, doit se raser la tête. Shimon HaTzadik l'a vu, cet homme. Il a vu que c'était un homme qui était beau. dont les cheveux faisaient de belles boucles, et lui a dit, qu'est-ce qui t'a décidé de détruire une aussi belle chevelure? Il est venu le raconter, il lui a dit, Roé Haïti et Tsel Ababiri, j'étais berger du troupeau de mon père. Et un jour, je suis allé à la source, et il a vu, Venista Kalti Bebouacheli, je me suis vu dans la source, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de glace. Umiad Pachazala Yitzri, Ubikesh le Tordeni Minaolam. Mon Yitzera, mon mauvais penchant, s'est affolé. Et il a voulu le Tordeni Minaolam Otamo, ça veut dire me faire faire des actes que je n'aurais jamais fait. À ce moment-là, j'ai décidé d'être nazir et de couper cette chevelure. Rabbi Shimon HaTzadik lui a dit, Kamocha Yirbu Nozre Nezirot B'Israël, c'est comme ça qu'on doit être nazir. Tout le problème est simple. En quoi le fait de se regarder dans une glace fait qu'on se permet des choses qu'on ne se serait pas permis si on ne s'était pas regardé? C'est difficile à comprendre. Parce que se regarder dans une glace, et alors? Une fois qu'on a répondu à cette question, on a dit ceci. Je ne suis pas sûr de la réponse, pas une certitude, mais on peut essayer. Lorsque je me regarde avec mon propre regard, je n'ai d'exigence que ce qui rentre dans mes critères. Lorsque je me regarde avec le regard des autres, je commence à avoir des exigences qui répondent aux critères des autres. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, sachez que c'est une halakha, ça peut toujours servir. Une loi. C'est inscrit dans le Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch. Qu'une femme, elle peut se regarder dans la glace pour voir comment elle est arrangée, comment elle doit s'arranger, mais un homme, non. Ça veut dire que je ne dois pas me regarder avec le regard des autres. Parce que lorsque je me regarde avec le regard des autres, j'ai des exigences folles. Toutes celles que les autres sont prêts à satisfaire, mais qui n'étaient pas les miennes. Je vais commencer à marchander ce que j'ai. Pourquoi? Parce que les autres sont prêts à payer pour ça. Il y en a qui vont très loin et qui ne sont jamais satisfaits de ce que les autres voient chez eux. Alors ils demandent aux autres comment ils doivent être. Et ils vont chez un chirurgien esthétique et ils vivent la vie des autres. C'est ça le problème. Quelqu'un ne veut pas se marier parce qu'il a des exigences. Personne ne pourra jamais le satisfaire. Qui c'est qui lui a donné ses exigences? C'est sa glace. C'est le regard des autres qui lui a dit, tu as droit à ceci, puisque tu es beau. Tu as droit à ceci, puisque tu es intelligent. Tu as droit à ceci, puisque tu... Voilà. Mais si quelqu'un se regarde avec son propre regard, les exigences, elles vont baisser énormément. Et ça, c'est un grand problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ne pèsent pas. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils plaisent beaucoup, mais personne ne leur plaît. C'est ça le problème. Si des gens liquidaient toute cette partie de la population, hein, je ne veux pas dire qu'il restait le plus grand monde à Darkeno, parce qu'on vient pour les conférences, mais quand même, on aurait résolu une partie de ce qui n'était pas un problème, mais ce qui est une réalité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est un peu plus complexe. C'est vrai que le zivouk, c'est vrai que le mariage, c'est mina shamaim. Seulement, comme je ne sais pas ce que le bon Dieu a décidé pour moi, le mieux, c'est de ne pas compter avec lui, mais de compter sur moi. Et pour terminer, on va raconter une dernière histoire.
Pourquoi pas la femme?
La même chose, la femme.
Non, mais pour se voir à la glace, je dis la femme.
Se voir à la glace, c'est autre chose.
On, met les choses au point.
On va mettre toutes les choses au point. La différence entre un homme et une femme, vous connaissez toutes, il y a beaucoup de différences, mais c'est déterminé dans la Torah par les mots. Parce que vous savez que la façon dont on appelle les choses dans la Torah, ça détermine la nature des choses. Un homme s'appelle Ben. Ben vient du langage binyan, construire. Une femme s'appelle Bat. Ça vient du mot Bayit. C'est le même mot que Bayit, veut dire un cadre. Quelqu'un qui doit vivre dans un cadre préfère que ce cadre soit agréable. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah pour la femme de se faire belle pour son mari. Je dis tout de suite, il y a une restriction pour son mari, pas pour les autres. Parce que vous savez qu'une maison, on la fait belle de l'intérieur, mais il est rare que vous puissiez aller dans Paris, vous trouviez des maisons avec du papier peint à l'extérieur. C'est rare. Et si quelqu'un faisait ça, on dirait qu'il n'a rien compris. Et baït, ça veut dire qu'il faut être beau à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça n'est plus le problème. Malheureusement, aujourd'hui, on voit souvent le contraire. C'est qu'on se fait belle pour sortir. Baït, dans la Torah, c'est le contraire. Ici, notre objet n'est pas de voir quelle est la avoda, c'est-à-dire ce que Dieu demande à un homme et à une femme, quelle est la différence. Mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire qu'une femme, c'est un baït, c'est un cadre. Alors qu'un homme, c'est un bonnet. C'est quelqu'un qui produit. De la façon dont eux enfantent, on le retrouve dans la nature même des choses. Qu'un homme produit et une femme est un cadre. C'est la raison pour laquelle une femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, parce qu'elle peut en avoir malgré elle. Et il n'y a de mitzvah que dans une chose que je contrôle. Si on veut pas, je ne peux pas commencer à parler de tout ce sujet-là, c'est un sujet qui est vaste. Mais ça, c'est une chose qu'il faut savoir. On va quand même raconter cette dernière histoire. Il s'agit du Saba Minovardok. Quelqu'un a peut-être entendu parler de lui. Il y avait un homme qui a décidé, pour des raisons qui lui étaient propres et qu'on ne peut pas élaborer ici, enfin on va les dire quand même, c'était un homme dont la femme est morte en couche et qui lui a laissé 8 enfants. Et après la mort de sa femme, il a commencé à s'occuper de ses enfants. Il a remarqué qu'il ne s'occupait pas de ses enfants pour eux, mais pour lui. Parce que le plaisir que lui procuraient ses enfants, c'était son plaisir. Il investissait donc dans ses enfants. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont normales et naturelles. Mais à ce moment-là, il y a 100 années, il y avait des gens qui contrôlaient ce genre de choses. C'est-à-dire que les enfants doivent les avoir pour eux et pas pour soi. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il embrassait ses enfants, c'est parce que ça lui faisait plaisir. Mais pas pour leur faire plaisir à eux. Comme la plupart des gens aujourd'hui. Il a décidé de mettre fin à ce système-là et de pouvoir regarder l'autre, le Shem Shamaim, ça veut dire de faire du bien à l'autre, pas pour soi. Il a décidé d'aller loin, de s'enfermer dans une chambre, d'étudier la Torah et de ne pas en sortir, jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec lui-même. Il est resté pendant 7 ans comme ça. Il n'est pas sorti, jamais. Il avait comme voisin un ferblantier. Et qu'est-ce qu'il a fait sortir de cette maison-là? Un jour, il a entendu des pleurs. Il y avait la fille de ce ferblantier qui pleurait, qui hurlait. Et les parents qui pleuraient avec elle. Il est sorti, il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit, c'est très simple, notre fille était fiancée. À ce moment-là, les gens étaient tellement pauvres qu'on exigeait des parents quelque chose pour pouvoir se marier. Et les parents du fiancé avaient donné ce qu'eux devaient donner. Et eux, ce ferblantier était tellement pauvre qu'il n'était pas capable de réunir la dot. Donc, le khatan avait rompu les fiançailles. Et cette fille était plus très jeune, parce qu'elle devait quand même avoir dans les 23 ans ou 22 ans. C'était à peu près les critères de l'époque. Et les parents se désolaient parce qu'une fille, vieille fille, qui en plus a rompu les fiançailles, alors là, pour la marier, ça va être très difficile. Et alors le Saba Minovardok, il n'avait jamais vu la fille. Il a dit à son père, mais moi j'ai un khatan. Il a dit, ah bon, tu vas trouver un fiancé pour cette fille? Il dit, oui, si elle veut bien, j'en ai un. Seulement, il faut lui dire une chose. Il n'est plus très jeune, il va avoir 40 ans. Il n'a pas une parnassa formidable parce qu'il étudie la Torah. Il n'a pas voulu lui dire qu'il était connu dans le monde entier. Et il lui a dit, si elle est d'accord de se marier avec un Talmid Chacham, qui a 40 ans et qui a 8 enfants, aujourd'hui, on dirait, mais ils sont à sa charge ou pas à sa charge? Alors, si elle est d'accord, je vais lui présenter. Ils sont allés chez la jeune fille, ils ont demandé, elle a dit qu'elle est d'accord. Mais elle veut le voir avant. La proposition lui plaît. Alors, il a dit, c'est moi. Et la mère qui est tombée évanouie, le type est tombé à la renverse. Il a dit, mais c'est pas possible. Il était connu comme un des Gdoléador, les grands de la génération. Il a dit, quoi, tu vas prendre la fille d'un ferblantier? Il a dit, pourquoi? Elle n'est pas cachère, elle n'est pas... Qu'est-ce qu'elle a? Alors, ils ont emmené la fiancée. Il avait déjà décidé avant. Ce qu'il a dû voir, n'a pas dû le repousser trop. Il a maintenu. Et il s'est marié. Ça, c'est l'histoire du Saba Minovardok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a décidé de rendre heureux quelqu'un, les candidats ne sont pas difficiles à trouver. Celui qui a décidé de choisir celui qui le, ou celle qui le rendra heureux ou heureuse, là, les candidats sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et tout le problème est là.